Prendre le petit déjeuner en communauté et pour 0 euro, c'est l'initiative de la branche lilloise de l'association Entourage qui lutte contre l'isolement et la précarité sociale. Tous les mardis matins de 8h30 à 10h30, l'association ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent partager un petit déjeuner. Lauriane et Juliette, représentantes et bénévoles d'Entourage à Lille, discutent avec nous de l'événement hebdomadaire.
Donc du coup, les petits déjeuners solidaires, ils existent depuis 2021. Ils ont été créés par le comité de la rue. En gros, nous, dans notre association, on a un comité de la rue. C'est des gens qui ont vécu la rue ou qui vivent encore la rue. Et du coup, ils ont eu cette idée de faire le petit-déj parce que justement, le mardi matin, la Belge s'est fermée. Et la Belge, c'est un centre, enfin un accueil de jour où les gens vont souvent, passent la journée ou pour se restaurer, boire du café. Et comme c'est fermé le mardi matin, bah, y a pas vraiment de service approprié pour faire ça. Donc du coup, ils ont eu l'idée de faire ce petit-déj de 8h30 à 10h30, où en gros, les gens qui n'ont pas un service peuvent le trouver chez Entourage.
L'idée, c'est vraiment que les gens viennent, ils apportent rien. Nous, on ramène du pain, y a des bénévoles, enfin, l'événement tourne exclusivement avec des bénévoles qui du coup s'occupent d'aller chercher du pain, du café, toutes ces petites denrées alimentaires. Donc on a largement de quoi se régaler et du coup les gens ont juste à venir, à se poser. Et l'idée c'est que ce soit le plus mixte socialement, on va dire. Donc on peut croiser autant des gens, comme disait Juliette, qui d'habitude fréquentent des accueils de jour, qui viennent pour chercher un service, que des gens qui ont envie de discuter, de passer un moment. Et il y en a pour qui ça devient vraiment bah, une habitude de venir et c'est vraiment le rendez-vous hebdomadaire du mardi matin où on vient voir ses potes quoi en gros et au fur et à mesure c'est ça, on vient pour profiter du moment quoi. Et c'est aussi un truc super important du comité de la rue chez Entourage, c'est vraiment un organe de décision comme le conseil d'administration ou le conseil de direction. C'est vraiment genre la boussole éthique d'Entourage pour s'assurer bah, que ce qu'on fait ça a du sens. Et c'est vraiment à l'initiative de ces personnes-là que ça a été créé, le petit-déj.
À qui est accessible le petit-déjeuner ?
Tout le monde peut venir. C'est accessible autant aux personnes qui en ont besoin, les personnes en précarité, les riverains, les voisins, les gens en entreprise, tout le monde. Tout le monde peut venir. C'est absolument ouvert à tout le monde.
On voit des gens vachement variés quand même au petit-déj. Et après, c'est entre guillemets, du coup, à Entourage, on propose aussi d'autres événements. On fait des ateliers cuisine, des trucs plus culturels, des soirées jeux de société ou quoi. Ça dépend un peu de la programmation du moment. Mais le petit déjeuner, c'est vraiment l'événement vitrine dans le sens où c'est le plus accessible pour tous. Et c'est là où on voit le plus de variété, même si on a quand même beaucoup de gens en précarité ou en grande précarité qui viennent au petit déj parce que, comme on l'a dit, ça remplit ce... cet espace vide de il y a pas d'accueil de jour ouvert à ce moment-là et où du coup les gens c'est un prétexte entre guillemets le fait que on distribue de la nourriture du café donc quand on fait des maraudes ou quoi qu'on va aux accueils de jour on vend un petit peu cet événement de vous pourrez prendre un café du pain etc. Forcément la nourriture pour les gens en grande précarité ça reste quand même une première raison de venir mais du coup on transforme cette raison en prétexte de créer du lien et de la discussion. Et ce qui fait que, au final, on retrouve des étudiants, des salariés d'entreprise. Enfin, souvent, on a des entreprises qui viennent dans le cadre de leur travail en mode OK, on y va entre salariés et on va faire du lien avec les gens.
Pour accéder à ce petit déjeuner, est-ce qu'il faut payer un euro symbolique ou quelque chose ?
Non, rien du tout aussi. C'est vraiment ouvert. Enfin, les portes, elles sont ouvertes. Les gens, ils rentrent, ils partent à l'heure qu'ils veulent. Enfin, à l'heure qu'ils veulent, il y a des horaires, mais. Enfin, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Après, il y a des gens, des fois, qui ont l'initiative de ramener... Il y a un bénévole qui a ramené souvent des fruits, par exemple, le matin, mais c'est pas du tout obligatoire. Les gens, ils peuvent venir juste avec eux-mêmes.
Et l'idée du petit-déj, c'est que les gens, ils peuvent venir 5 minutes. Il y en a très bien qui vont juste venir pour boire leur café et qui n'ont pas envie de parler aux gens. Et c'est OK, ils vont continuer leur vie. Et après, on voit qu'il y a des gens qui, petit à petit, ils viennent, ils passent de plus en plus de temps, etc., mais... Chaque fois, c'est complètement gratuit et il n'y a rien à ramener.
Est-ce que c'est, on va dire que c'est accessible à tous les régimes alimentaires ?
De toute façon, il n'y a pas de viande. Enfin, ou des fois, il y a un de nos bénévoles ambassadeurs qui a des sandwichs Laurent à distribuer, mais ça, du coup, ça dépend de ce qu'il a récupéré. Mais en fait, il n'y a pas de salé au petit déjeuner. Donc, c'est à part les gens qui sont intolérants au gluten.
C'est vraiment en mode self-service. Les gens prennent leur café, leur thé. Des fois, on passe un petit peu pour leur proposer, parce qu'il y en a qui sont un peu timides, on va dire, qui vont pas oser. Mais du coup, c'est vraiment les gens prennent ce qu'ils veulent.
Nous sommes toujours en train de parler de l'association Entourage, une association dont la branche lilloise organise des petits déjeuners solidaires tous les mardis matins afin de lutter contre l'isolement social et la précarité alimentaire. Des petits déjeuners pour se restaurer et créer du lien, mais également pour bénéficier d'autres services, comme en témoignent Lauriane et Juliette, bénévoles de l'association.
Après aussi au petit-déj, on l'a pas dit, mais il y a des prestations des fois. On avait une coiffeuse qui venait, à un moment on a eu un coiffeur, on a une assistante sociale qui vient toutes les semaines. En gros, il y a des gens qui viennent sur place offrir un service gratuit aussi aux gens qui sont là, s'ils veulent. Donc nous, on est ouverts, les gens, s'ils veulent venir proposer quelque chose gratuitement ou se faire connaître, ou je sais pas, ils sont totalement les bienvenus aussi.
Mais ouais, le petit-déj, on a un peu envie que ce soit un endroit qui vive, ouais, et que ce soit pas juste justement ce truc de service alimentaire, de on vient manger, mais des fois il y a des trucs qui changent un peu de l'ordinaire, comme disait Juliette, une fois il y a une association qui est venue, il y a des coiffeurs, des gens qui rendent des services, etc. Et on est vachement en recherche de ça, justement, d'associations qui ont envie justement de participer à ça pour créer, on va dire, un plus gros événement et faire un peu une sorte de place des associations où, ouais, chacun peut venir pour proposer quelque chose.
Et du coup, est-ce que vous avez des événements, on va dire, avec Entourage qui vont bientôt se faire, ou dans le cadre du petit déjeuner ou autre ?
En général, déjà, le petit déjeuner, c'est tous les mardis matins. Après, on a ce qu'on appelle les événements réguliers, récurrents. On a les soirées jeux de société, où c'est deux fois par mois. Des ateliers cuisine aussi, où c'est deux fois par mois. Et après, de manière plus ponctuelle aussi, là, bientôt, on va avoir une visite de l'aéronef. Et avec l'été aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de concerts, open air, etc., qui sont organisés. Et du coup, on va essayer de plus se rendre aussi à des concerts qui sont organisés par l'aéronef en plein air, qui s'appelle Un air d'été. Où ça aussi, c'est des événements qui sont vachement propices aux liens, parce que bah, y a le concert en plein air, il y a plein d'activités, etc. Donc il y a ça aussi à venir. Et pour
l'escalade aussi.
L'escalade aussi, qu'on a régulièrement.
Dans la salle où a lieu le petit déjeuner, une légère odeur de café se fait sentir, accompagnée de brioches, pain, confitures et viennoiseries. Nous avons eu l'occasion d'interroger certains adhérents sur leur ressenti vis-à-vis de l'initiative.
Alors, je m'appelle Joriane, je viens à Entourage tous les mardis matin. J'en loupe aucun parce que pour moi c'est extrêmement important. C'est ce qui me sauve dans ma triste vie, parce que j'ai un parcours de vie extrêmement difficile à tout point de vue. Je suis polyhandicapé, bon, j'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, mentale et physique. Je n'ai plus aucune famille du tout. Vraiment, je suis complètement dans une solitude à couper au couteau. C'est absolument épouvantable. Et grâce à cette association-là, j'ai la sensation d'avoir un remplacement familial, parce que les bénévoles nous suivent dans nos vies, nous posent des questions sur ce qu'on vit, la fois d'après se souviennent de ce qu'on a dit, etc. Donc il y a un très fort lien qui se crée. Et pour moi, de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est ça ou rien du tout, ou aucun lien social. Donc je n'ai pas le choix. Donc je suis bien obligé de venir à Entourage. Mais j'adore, parce que je fais des tas de belles rencontres. En fait, je suis venu ici grâce au bouche à oreille, parce que j'ai commencé par aller au Restaurant du Cœur, et c'est là qu'on m'a parlé de l'association Entourage. Mais au tout début, je ne connaissais aucune association, et c'est vraiment par le plus grand des hasards. J'étais assise sur un parc dans l'île, et quelqu'un m'a parlé comme ça, dans le plus grand des hasards d'une association. J'y suis allé, et c'est là qu'on m'a dit, il y a aussi l'association Entourage qui propose des petits déjeuners le mardi matin. Et donc, si je n'avais pas rencontré cette personne, eh bien, peut-être que je ne serais pas au courant de cette belle association. Mais le hasard a fait que j'ai été au courant. Parce qu'il faut savoir que personne n'en parle de ces associations. Même les assistantes sociales qui essayent de tout faire pour nous et de nous alléger la vie, ou dans les mairies, ou partout, personne ne nous parle des associations, et notamment de l'association Entourage. Moi, j'ai découvert ça il y a un an et demi, et j'étais au courant de rien du tout, alors que j'étais dans la solitude à couper au couteau depuis une dizaine d'années. Ma condition de vie est telle qu'elle est insupportable. Donc maintenant, c'est beaucoup plus supportable. Chaque jour, en se réveillant le matin, on sait qu'on est attendu, qu'on est espéré, que beaucoup de gens nous aiment bien. Et quand on n'a plus du tout de famille, ça fait du bien.
Mais du coup, vous avez réussi à trouver peut-être des amis, vraiment un entourage fidèle ici?
Ah oui, alors ce que j'apprécie avec l'association Entourage, c'est leur slogan. C'est Entourage, le réseau de ceux qui n'en ont pas. Et alors moi, ça me convient bien parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis carrément dans ce slogan. Car pour couronner le tout, pour ajouter aux difficultés de ma vie, il se trouve que je suis complètement babache devant un téléphone portable et devant les techniques modernes. Donc je suis coupé du monde parce que je suis incapable de me servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, tellement c'est compliqué, je ne suis pas né avec. Et justement, à Entourage, eh ben, on a tout un réseau qui se crée et on n'a pas besoin de connaître ces vilaines techniques modernes. Donc moi, ça m'arrange bien, c'est mon réseau, hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et donc, grâce à ça, bah, je fais des très belles rencontres de tout ordre.
Je m'appelle François, ou Chacado, comme on dit, ou Monsieur le Chat.
Ok, et du coup, est-ce que vous pouvez me dire, ça fait combien de temps que vous venez à Entourage?
Ouais, je vais vous dire, je suis dehors depuis juillet l'année dernière, hein. Donc ici, j'ai commencé en octobre-décembre, pendant les périodes d'hiver, et tous les mardis, bah, je viens, voilà. Je viens pour dire bonjour, discuter avec les gens. Bah, j'ai même, pour vous dire une intox, je vais être en bénévole. Parce que moi, j'ai quelques amis qui viennent travailler ici, et qui fait partie comme bénévole à la Beige. Donc il m'a rencontré, il m'a dit bah, « Pourquoi tu viens pas de temps en temps au petit déjeuner ?» Bah voilà, c'est ce que j'ai fait, je suis venu, voilà. Et depuis, bah, j'en arrête pas de venir. On vient avec le chat, ici, présent, à mes genoux, qui se balade de temps en temps. Alors au début, c'était très dur, parce que j'avais 25 kilos avec moi. J'avais un sac, plusieurs sacs, un caddie rempli. Maintenant, petit à petit, bon, j'ai pu réduire parce que, en fait, je vis dans une tente et on m'a permis de vivre là-bas à la citadelle.
Et du coup, le fait de venir ici, est-ce que ça vous a vraiment permis de rencontrer des gens, développer un entourage?
Bah, la preuve, c'est comme ça que j'ai pu me permettre de rencontrer aussi des personnes qui travaillent à la cloche. Je rencontre les gens, comme d'habitude, je dis bonjour et puis on fraternise.
Vous pouvez retrouver le petit déjeuner solidaire tous les mardis matins de 8h30 à 10h30 au 23 passage rue du Marché à Lille. Vous pouvez également retrouver toutes les informations et projets de Entourage sur leur application Entourage ou sur leur page Instagram entourage-du-bas Hauts-de-France.
Un reportage de Aurore Henny pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus.
Garce, salope, ordure.
106,6.
Tu me fends le cœur.
Ton 31, la chemise blanche, les mocassins, le pantalon en velours vert, ça plaira sûrement à ta mère. T'as lu l'horoscope en venant, c'est le moment pour les Verseaux de vous confier à vos parents. Dommage que tu ne sois pas Verseau, tu attendras la fin du repas pour leur parler un peu de toi. Coming out, coming. Vraiment plaisir de pouvoir manger avec toi. Abonné aux vieux souvenirs, ils se sentent un peu seuls parfois. Ton père collectionne les silences, ta mère les caniches en faïence. Cette année pour le réveillon, ils s'offrent de tranches de saumon. Tu attendras qu'ils soient un peu moins morts pour leur parler de Victor. Oh. Coming out, coming. Ça sonne vraiment pas mal. commence pas trop mal. Des gens bien, plein de douceur et de tact. Ta mère a pu, mine de rien, ne faire qu'une demi-crise cardiaque. Ton père a vraiment pris sur lui pour se montrer cool et ouvert. À part l'incident du fusil, tu peux vraiment en être fier. Tu attendras qu'il soit un peu moins con pour leur parler de l'adoption. Coming out, coming.
Watch out after cool babies, strange but not a stranger. étions arrivés à Ravensbrück en décembre 1943. Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. Vous connaissez la chanson en français. « Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter ?»
Lili Keller Rosenberg, déportée à 11 ans, survivante des camps de Rosenbrück et de Bergen-Belsen, témoigne dans les collèges de la région des Hauts-de-France. Au-delà de sa propre histoire, Lili Keller Rosenberg met en lumière les persécutions subies par les enfants juifs et ziganes du Nord et du Pas-de-Calais. Bruno Lobert l'a rencontré le 6 juin 2025 au collège Robert Le Frisson de Cassel.
Madame Keller Rosenberg, bonjour, enchantée de vous connaître.
Moi de même, monsieur.
Vous avez malheureusement été arrêtée à l'âge de 11 ans pour partir en déportation. Et là aujourd'hui, à Cassel, vous nous avez donné un témoignage d'une tristesse à mourir, mais exceptionnelle.
Je tiens à témoigner sans fin, vous voyez. Nous ne sommes plus très nombreux, les déportés. Nous ne sommes plus qu'une poignée. Mais c'est tellement indispensable parce que les jeunes ont des cours d'histoire sur cette période. Ils en savent déjà beaucoup. Mais lorsqu'ils entendent un témoin, une personne qui a vécu cette période, eh bien, vraiment, ils sont heureux et ça leur apporte un plus, un grand plus.
À cette mauvaise époque, il y a un fichage des Juifs. On les empêche d'aller au cinéma, on les empêche d'aller à la piscine. On les affuble même d'une étoile de Judée.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce qui me fait la plus grande peine. Comment peut-on reproduire de telles horreurs? Comment? Vous voyez, je me demande ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Pourquoi le mal faut-il toujours qu'il revienne? Mais cependant, je ne perds pas courage. Vous voyez, on pourrait baisser les bras et être attristé au point de ne plus pouvoir en parler. C'est l'inverse qui se pose pour moi. Plus j'entends parler de mal, de honte, d'antisémitisme, plus j'ai envie de rencontrer encore un plus grand nombre d'élèves pour qu'ils sachent ce qui s'est réellement passé pendant cette période, pendant cette haine des Juifs. Hitler avait décidé de détruire les Juifs de toute l'Europe.
C'est ce qu'il appelait la solution finale, d'ailleurs.
La solution finale, qui s'appelait. Et nous y avons échappé de peu. Et lorsque les élèves me posent la question, comment j'explique que j'ai pu en réchapper.
C'est digne du miracle, on serait tenté de dire.
Exactement. Pourtant, je ne suis pas croyante, vous voyez. Mais je dis, c'est miraculeux d'être rentré, malgré tout, en mauvais état. On nous a soignés, mais nous sommes là. Et je dis aux élèves, voilà, c'est un défi pour les nazis. Ils voulaient m'abattre ainsi que ma famille. Nous sommes là, voilà. Ça prouve qu'ils n'ont pas 100% réussi et que maintenant je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour expliquer, pour éviter que ça ne revienne, pour que les jeunes comprennent.
Le 27 octobre 1943, c'est une date toute particulière.
Toute particulière, bien sûr, nous avons été arrêtés relativement tôt parce que beaucoup de déportés que je connais ont été déportés à partir de 1944. Nous, en 1943 déjà, c'était, figurez-vous, le jour anniversaire de maman. Quelle triste coïncidence!
C'est quelque chose qui touche en plein cœur.
C'est certain, c'est certain. D'ailleurs, les élèves, je ne veux jamais faire pleurer quand je témoigne. C'est un sujet triste, mais je veux surtout qu'ils retiennent. Je ne témoigne pas pour faire pleurer, mais ils sont sensibles. Et parfois, j'aperçois une larme au bord de leurs paupières lorsque je parle également d'un tout petit frère de 3 ans et demi, vous voyez, à l'époque. Comment a-t-il survécu? Avec l'amour, bien sûr, de maman, mais maman, dans la journée, travaillait, était à l'arbeit, et j'étais la seconde petite maman, je m'occupais de mes frères, et tout spécialement de André.
On s'aperçoit que dans ces camps de concentration, il y avait des façons de vivre difficiles, il y avait des virus, on mangeait pas, on avait froid.
Ces camps étaient ignobles. Tous les déportés l'ont dit au retour. Nous crevions de faim, je vous assure. Nous crevions de froid également, parce que nous n'avions aucun pull, rien pour nous protéger. Mais nous, les enfants, et je parle surtout pour moi, pour mes frères, nous avions si peur. Pendant 2 années, je vous assure, dans les camps, nous vivions comme des ombres, n'osant nous montrer, nous apercevions de la brutalité de ces SS qui nous entouraient, de leurs chiens menaçants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. C'est ce que, 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Vous voyez, je n'ose m'en approcher. J'ai donc réellement été marqué par cela. Et comme nous avions si peur, nous restions enfermés la journée entière, comme des ombres. Nous n'osions nous montrer que le soir, au retour de maman.
On souffre soir et matin. On souffre, on meurt de faim. On pleure, car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés.
Nous retrouvons Bruno Laubert et Lily Keller-Rosenberg, déportées à 11 ans, survivantes des camps de Rosenbruck et de Bergen-Belsen.
On vient de fêter les 80 ans de l'Holocauste, de la déportation. C'est pas compliqué de se rendre sur ces lieux de barbarie?
C'est un sujet toujours très pénible que certains n'ont jamais pu évoquer. Je connais des déportés, c'était au-dessus de leurs forces et disaient « on ne peut pas en parler ». Cependant, ceux qui le font, c'est indispensable, bien sûr. C'est dur, mais c'est tellement nécessaire que ça donne la force de tenir et d'en parler coûte que coûte et à l'infini.
Vous avez envie d'ouvrir une maison à Roubaix pour avoir une maison de la mémoire?
C'est pas une maison, monsieur, c'est ma maison. C'est
encore là, mieux.
C'est là où nous habitions à Roubaix avant la déportation. Et figurez-vous qu'il y a 2 ans, oui, à peu près 2 ans, nous avons appris que cette maison était à vendre. La nouvelle propriétaire voulait la vendre. Et donc, tout de suite, l'idée a germé dans mon esprit, dans celui de ma fille également, d'en faire une maison mémorielle. Vous savez, il y a des maisons en France, heureusement, et des associations où l'on parle de la déportation en général, surtout la déportation des adultes. Mais là, ce serait la maison de la déportation spécifique des enfants, les enfants juifs et tziganes.
Vous avez un certain âge, vous êtes d'ailleurs très bien. C'est ce qui vous motive, votre devoir de mémoire, de rester aussi belle et aussi jeune?
Là, vous êtes trop aimable aussi.
Non, je suis réaliste.
Vous savez, oui, je pense que c'est cette passion de témoignage, cette envie de transmission qui me tient, qui me fait tenir debout encore. Et comme je veux toujours être relativement coquette pour que les jeunes disent...
Avec votre rouge à lèvres, hein, vous avez insisté.
Ah, le rouge à lèvres est indispensable. Je témoigne toujours, vous savez, monsieur, je suis la seule déportée qui témoigne debout pendant 2 heures avec beaucoup de rouge à lèvres et bien mise de sa personne. C'est indispensable.
Je crois qu'on peut remercier aussi le corps enseignant, les proviseurs du collège de Wormhout et de Cassel pour l'organisation de ce moment de témoignage, de mémoire.
C'est certain. C'est grâce à ces principaux de collège, grâce ici à Wormhout et à Cassel aussi, c'est Cassel qui a organisé. Je trouve que c'est magnifique et je remercie toujours ces personnalités-là parce que c'est grâce à eux qu'il y a un grand nombre d'élèves à chaque fois qui viennent écouter le témoignage. Et aujourd'hui, où nous étions si nombreux, et tous ces enfants, vous savez, les enseignants me disent parfois, on a du mal à tenir ces jeunes tranquilles, une demi-heure, trois quarts d'heure, ces jeunes, c'est plein de vie. Mais là, quand ils écoutent, pas un bronche, pas de bavardage, pas de bruit, les professeurs eux-mêmes en sont étonnés.
Il va falloir que vous veniez plus souvent dans les collèges.
Ben écoutez, jamais je ne refuse, sauf maladie, bien entendu. J'ai été très malade en 2024 pendant quelques temps, mais dès que ça allait un tout petit peu mieux, j'ai repris ma mission.
Merci de m'avoir accordé cet entretien, j'y tenais vraiment. Heureusement qu'il existe des gens comme vous pour nous parler du passé, pour aller vers un meilleur futur.
Merci à vous, monsieur. Grâce à vous, grâce à vos écrits, tout le monde saura que jamais il ne faut oublier et que nos jeunes sont là pour reprendre le flambeau. J'ai foi, j'ai confiance en eux et je veux qu'un jour la paix vienne dans le monde. Je dis bien, c'est pas pour tout de suite,
ça n'en prend
pas le chemin. On verra bien. Mais avec tous ces jeunes réunis de toute l'Europe, c'est quelque chose d'exceptionnel.
C'est bon signe.
C'est bon signe et ça arrivera.
Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée.
Merci à vous également. Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Déporté à 11 ans avec ses deux jeunes frères, Lily Keller-Rosenberg est l'une des rares survivantes enfantines françaises à être revenue avec sa fratrie. Marquée par l'horreur des camps de Rosenbruck et de Birkenau-Belsen, elle consacre sa vie à raconter son histoire pour que l'oubli ne triomphe jamais. Cet entretien a été réalisé par Bruno Lobert. Montage, Koulibaly Daouda pour Radio UI Lanspiel.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
SS qui vient nous voir chaque soir. SS, à quel rasoir. À cause de toi, nous restons debout, à tomber sur nos genoux.
Quana mama da da vata, quana mama da da vata. Was a big on my fajeta, was a big on my fajeta. Papa stasi carnaval, papa stasi carnaval. Tutta che la cama te.
Qui se la coule douce de Saint-Just à la Croix-Rousse, partout ils sont connus. Et Bistin claquait pas, la navette et le bâtin, voyez comme ils sont chenus, c'est nous les petits canuts. Thank you.
piston claque, c'est le bruit du métier à tisser qui rythmait autrefois le quotidien de la grande cité. Les canons ne tissent plus la soie, métisser du lien, ça peut être ça. Qui que tu sois connu ou pas, métisse-toi, 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 aïe chic, découvre le côté chic de celui pour qui tu es et qui te semble exotique. Les cultures, les générations ne sont pas si hermétiques. Allons, 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 sors de tes cercles concentriques. Piston claque, la navette file, file, pam pam, piston claque, la navette est le battant, oh, et piston claque, la navette file, file, pam pam, piston claque, la navette est le battant, oh, oh, ne pas tomber dans la facilité de s'auto-contenter, ne pas s'en laisser compter par les compatentés. Au compteur, faut tout tenter, faut tâtonner, faut tout tâter, notre part d'étrangeté tout en restant entier, tâtonner nos identités, métisser, tâtonner nos identités, métisser, tâtonner nos identités, métisser, tâtonner nos identités. Mais c'est toi, parla, 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 parla. Oh, mais c'est toi, parla, parla, tous les lingos, du comme un adepte, eh, oh, de la polyglose. Habla, habla, use de la parole, des langues, des accents, c'est bien ça le plus drôle. Piston, claque, la navette file, file, bam, bam, piston, claque, la navette et le bâton, oh, eh.
Afin de couvrir le grand, à chapeau me doupi, à la bombe de ma chantant. Oh, c'est de la
thank you. L'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, est une association française reconnue d'utilité publique depuis 2005, dont le but est de permettre à des personnes qui n'ont pas d'accès au système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise grâce au microcrédit accompagné. Rencontre avec Memouna de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France.
L'association a été créée par Marianne Oac, qui avait l'idée en fait que chacun peut entreprendre en fait même sans capital. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à un crédit bancaire classique, nous en fait au niveau de l'ADI on est le dernier recours, on suit que ce soit les personnes au RSA, fichier Banque de France ou demandeurs d'emploi en fait, peu importe la situation de la personne à partir du moment où elle a une compétence ou un talent, en fait elle peut venir s'adresser à l'ADI et on sera là en fait pour l'accompagner que ce soit sur du financement ou de l'accompagnement.
Quel est le profil des personnes que vous recevez ?
Alors comme j'ai expliqué, un profil du coup assez, assez fragile. On a des personnes de tout horizon, hein, mais c'est des personnes qui sont assez fragilisées au niveau des finances et dont personne ne veut forcément les suivre. Et en fait, l'ADI est une porte ouverte pour ces personnes-là, en fait, dont personne ne veut aider.
Donc une personne qui vient avec une première idée d'un projet,
oui.
Il peut venir.
Il peut venir. Il peut venir. Ensuite, on travaille en fait avec une équipe intégrée, donc des bénévoles. On est aussi en lien avec du coup les partenaires comme Positive, avec qui on travaille énormément, qui font uniquement de l'accompagnement. Et à partir du moment où en fait la personne elle a une idée, eh ben on est là en fait pour structurer son projet, pour soit voir ce qui est à compléter avec les bénévoles ou avec les partenaires, et ensuite faire la partie financement avec elle. Et c'est pas des personnes en fait qu'on lâche dans la nature pendant 3 ans, on les suit sur leur projet. On a pas mal d'ateliers qui sont mis en place aussi par rapport à ça, qui peuvent les aider, comme comment chiffrer son projet, comment trouver des clients, des ateliers sur la confiance en soi. Et en fait, ils peuvent bénéficier de tout ça et gratuitement. Ils ont vraiment, on les suit réellement. En fait, c'est un réel accompagnement.
Et qui anime ces ateliers ?
Alors, nos bénévoles les animent. On travaille avec des bénévoles. Nous, les conseillers, on peut les animer aussi si on n'a pas assez de bénévoles. Et puis voilà. Et ensuite, c'est des relations assez, parfois partenariales où là, on va travailler en fait avec d'autres structures comme les Carrefour, comme Positive, etc. où on pourra se mettre en lien pour pouvoir créer un atelier qui servira du moins pour les porteurs de projets.
Quand vous dites des bénévoles, donc c'est des gens qui sont formés ?
C'est des gens qui sont formés ou c'est des personnes qui ont déjà en fait des compétences dans le métier. Par exemple, là, j'ai un événement au centre social de l'ALMA durant la campagne de l'ADI avec une bénévole qui fait déjà ça en fait à son compte. Elle travaille beaucoup sur tout ce qui est confiance en soi. Elle est coach et donc en fait elle sera là tout simplement pour les personnes qui seront présentes, donc les porteurs de projets, pour animer en fait cet atelier. Mais ce sont des bénévoles souvent retraités qui ont déjà en fait les compétences requises dans le domaine.
Comment est-ce que vous les sélectionnez, vos bénévoles?
Alors, ils peuvent postuler directement via le site internet, donc adi.org, ou nous, dans certains événements, on peut aller à leur rencontre, comme il y avait la journée du bénévolat à la maison des associations où l'ADI était présent, et donc à ce moment-là, on informe que nous, on a toujours besoin de bénévoles, il y a pas mal de bouche à oreille aussi. Et ensuite, c'est des entretiens qui sont faits avec eux. Ils nous voient sur le terrain, ils nous voient sur nos différentes missions également. Et ensuite, ils se positionnent sur ce qui peuvent les convenir, parce qu'en fait, c'est aussi un choix. Hein. Ce ne sont pas des salariés, ce sont des bénévoles. Il faut que ce soit une mission qui les anime aussi. Et puis, ça reste des passions. Donc, sur le volet, en fait, sur lequel ils se sentent le plus à l'aise, c'est là-dessus, en fait, sur lequel ils vont.
Oui, parce qu'il faut avoir quand même certaines compétences.
Exactement.
Pour accompagner, c'est pas donné à tout le monde.
Tout à fait. Mais le champ, il est tellement large, en fait, pour pouvoir accompagner un porteur de projet, que ça soit, sur tout ce qui est la comptabilité, que ça soit sur les déclarations, que ça soit sur l'assurance. Ça peut être aussi pour restructurer le projet, pour pouvoir trouver un local, comment on fait, etc. En fait, finalement, c'est tellement large qu'on trouve toujours, en fait, des bénévoles qui ont une certaine compétence pour pouvoir accompagner au mieux.
Parce que comme vous nous parliez du public,
public très fragile que vous accueillez.
Oui.
Il faut aussi avoir un savoir-être.
Exactement, oui.
Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde, on va dire.
Non, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'au niveau, même au niveau des salariés de l'ADI, on est embauché aussi dans ce sens, en fait. Une personne qui n'a pas forcément d'empathie, de la patience, qui n'est pas forcément ouvert d'esprit ou qui n'a pas l'habitude de travailler avec les communautés, etc., bon, bah, c'est pas forcément le profil qui sera recherché au niveau de l'ADI. On a besoin, en fait, justement, d'avoir cette ouverture d'esprit pour tous. Et je pense qu'on est tous dans cette même dynamique au niveau de l'ADI, quoi qu'il arrive.
Memouna, de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France.
Quels sont les principaux freins que vous constatez quand les personnes viennent vous voir? Qu'est-ce qui les freine le plus?
Qu'est-ce qui les freine le plus?
Oui, ou de quoi ont-ils peur?
Je pense que il y en a beaucoup qui ont réellement peur de se lancer. Ils n'ont pas réellement peur de se lancer, ils ont plutôt peur d'échouer. Et ensuite, il y a... Je pense que c'est des peurs qui sont transmises. Je pense pas que c'est réellement leur peur directement, mais souvent c'est lié à l'entourage, quand il y a des enfants aussi, etc. Et donc du coup c'est surtout cette angoisse au niveau financier de se dire comment je vais pouvoir faire si ça fonctionne pas, etc. Je vais me retrouver peut-être avec un crédit ou quoi que ce soit. Mais en fait, encore une fois, au niveau de l'ADI, tout est calculé. C'est-à-dire que nous, une personne qui nous demande de 10 000 euros pour un projet, si le projet n'a pas forcément besoin en fait de 10 000 euros pour commencer, qu'on peut commencer avec bien moins que 10 000 euros, et qu'en plus de ça, la capacité de remboursement ne le permet pas, on va pas aller. On est là aussi pour pouvoir raisonner un petit peu les personnes quand ils voient un peu trop grand et puis de se dire, ben, on peut commencer petit. Et puis ensuite, eh ben, on va essayer de voir un peu plus grand une fois que ça ira un peu, quand ce sera petit déjà. Mais on les met pas en difficulté. On est là pour les aider justement, mais sans les mettre en difficulté pour autant. Et donc c'est aussi de notre rôle de leur dire quand c'est OK et quand ça ne l'est pas et quand il faut revoir le financement à la baisse. Ou alors tout simplement te dire, bon, là, un local, ça va être très coûteux, mais on peut peut-être commencer l'activité à la maison. Et donc, à ce moment-là, il y a toujours des portes, en fait, qui s'ouvrent quand on y réfléchit bien. Donc, je dirais pas... Je pense que tout le monde arrive quand même avec une certaine appréhension. Et puis aussi, le fait de pas forcément se sentir légitime, je pense que quand on a souvent des portes qui sont fermées et qu'on vient, ben, on vient aussi avec la peur de se dire « Ah, mais on va me refuser une fois de plus ». Mais au niveau de l'ADI, il n'y a jamais de nom définitif. Ce qu'on demandera, c'est soit que la personne elle essaye un petit peu plus de se mettre dans le verre et puis ensuite de revenir parce que là, elle est trop en difficulté et ce n'est pas possible. Ou alors de commencer petit pour ensuite pouvoir voir plus grand. Mais il n'y a pas de nom définitif en fait, au niveau de l'ADI. Voilà.
Dans les projets que vous avez accompagnés, quels sont ceux qui vous sont restés en mémoire?
Alors en fait, il y a tellement de projets différents. Moi, c'est pas forcément en fait le projet, je dirais, plus que c'est par rapport à la personne en fait qu'on a en face de nous, parce que le métier il est très humain en fait au final, et parfois en fait ça peut être un métier qui peut paraître banal, mais quand on connaît toute l'histoire en fait qu'il y a derrière la personne, ben moi c'est plutôt ça en fait qui va me marquer. Là, par exemple. J'ai une dame, en fait, que je suis, qui vient, du coup, des dom-toms. Elle a 9 enfants et elle est arrivée ici pour pouvoir leur offrir une vie meilleure. Et donc, elle a commencé par ouvrir un restaurant avec son mari. Et c'était compliqué pour ses filles de pouvoir trouver un emploi, etc. Et donc, elle a décidé, en fait, d'ouvrir une boutique où... là-dessus, où elle va faire tout ce qui est vêtements traditionnels, en fait, etc. Et se partager le local avec ses filles pour qu'il y en a une qui fasse les ongles, il y en a une qui fait tout ce qui est coiffure, etc. Et donc, du coup, c'est devenu vraiment un projet familial. Mais quand on connaît réellement l'histoire qu'il y a derrière et les difficultés que cette dame, elle a eues pour pouvoir en arriver là, les sacrifices qu'elle a fait, et avec toute la charge en plus de ça qu'elle a derrière, de se dire « j'ai fait tout ça pour pouvoir, en fait... » pour ma famille, en fait, tout simplement. Moi, c'est plutôt ça qui va me marquer, en fait. Je pense qu'on peut faire le métier le plus extraordinaire du monde. S'il n'y a pas une histoire derrière, ça va pas valoir autant qu'une petite activité sur laquelle il y a une énorme histoire qui va derrière.
Oui, c'est le parcours.
Exactement.
C'est la progression de la personne.
C'est ça.
À travers son projet, ce qu'elle a pu découvrir.
Oui. Et puis aussi leur détermination et... la façon qu'ils ont en fait vraiment d'être capable en fait de se relever et d'aller toujours plus loin, c'est surtout ça.
Et ce qui est important aussi, c'est de retrouver la confiance en soi.
C'est ça. Ça, c'est vraiment la base de tout. D'où les ateliers confiance en soi, du coup.
Et qui anime cet atelier?
Alors là, c'est Christine qui est notre bénévole, qui est également du coup à son compte en tant que coach. Et en fait, il y a pas mal de dames qui font de la cuisine, ce genre de choses, en fait, au centre social de l'Alma. Et on s'est dit que ça serait pas mal, en fait, de faire un événement avec elles pour leur donner confiance et pourquoi pas créer leur activité, en fait, à elles-mêmes. Là, pour le moment, elles sont dans une coopérative, mais... si ça se trouve, il y en a certaines d'entre elles qui voudraient développer leur activité, mais qui n'ont pas assez confiance, qui se mettent des barrières là-dessus, et l'entourage qui fait que, mais c'est risqué, etc. Et finalement, en fait, à travers les peurs de tout le monde, ben, on finit par avoir peur nous-mêmes. Alors que quand on reprend confiance, ben, on se dit, mais finalement, on peut peut-être essayer.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été accompagnées dans votre association et qui reviennent en tant que bénévoles?
Alors, je pense qu'il y en a, oui. Maintenant, j'en ai pas en tête, mais il me semble qu'il y en a, oui. En sachant que nous, on est situé un petit peu partout en France. Et donc, oui, il y en a, mais personnellement, moi, j'en connais pas.
Peut-être nous dire si jamais on a besoin d'informations, où est-ce qu'on peut trouver...
Oui, si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez vous connecter sur notre site adie.org, sur lequel vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne. Vous pouvez également contacter du coup notre plateforme nationale au 09 69 328 110. Vous serez mis en fait en contact avec l'agence la plus proche de chez vous, en sachant que nous sommes situés un peu partout dans les Hauts-de-France.
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous intervenez qu'à Roubaix ou est-ce que vous intervenez dans la région des Hauts-de-France?
Alors, on intervient dans la région des Hauts-de-France. Donc, on a plusieurs agences, dont du coup Roubaix, Lille, Valenciennes. On intervient aussi sur Dunkerque, Calais, Lens, Arras. En tout cas, près de chez vous, dans les Hauts-de-France, vous avez toujours une agence qui est disponible au plus proche.
Nous étions avec Memouna, de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous êtes sur Radio Campus 106,6, la radio qui secoue le plus.
Allez, serre les dents, fiston, montre-nous ce que t'as dans le caleçon. T'es un dur quoi, c'est qu'une égratignure de mon temps. Si tu savais, on est des moins douillets. À la guerre comme à la guerre, pas des fils à sa même mère. Et toi, fais pas ta tête de mule, finis-moi tes légumes ce soir, je te les resserre au dessert. On va t'envoyer 15 jours en colo au Darfour, bouffer de la terre. On verra si tu seras si difficile. Et moi je pleure. Est-ce que c'est grave, docteur, que je suis tombée dans les graviers, qu'on m'a piqué mes billes à la récré? t'as mal au crâne, t'es fatigué. Tout ça c'est dans ta tête, tu sais, des caprices d'enfant gâté. Moi je fais tout déjà pour que rien ne vienne à te manquer. La télé, le portable, le lecteur DVD, le MP3, ça suffit.
Vous